commencer notre conseil, j'ai reçu trois pouvoirs. Youri Philippe, qui sera représenté par Édouard Abon, Jean-Michel Lorca, représenté par Damien Gaudier, Aline Triolet, représentée par Nicole Lesage, Pascal Marnic arrivera avec un peu de retard, et Benoît aussi, Benoît Mathier également. Je vais donc passer, comme d'habitude, à l'élection du secrétaire de séance. Je vois que Astrid est présente. Astrid est toujours la plus jeune. Elle le sera jusqu'à la fin du mandat. Donc, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je propose la candidature en tant que secrétaire de séance d'Astrid Tussaud. Pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Nous poursuivons avec le rapport 2.1 et c'est Christine Mazzi qui nous présente ce rapport.
Oui, merci Monsieur le Maire. Comme chaque année, je vous propose d'adopter la délibération qui fixe les taux d'imposition, à savoir le taux de la taxe d'habitation 24,59%, la taxe foncière sur le bâti 23,62% et la taxe foncière sur le non bâti 33,32%. À noter que le Conseil se prononce uniquement sur les impôts ménages, puisque depuis 2017, la fiscalité professionnelle des entreprises a été transférée à l'aglo.
Merci. Alors, cette évolution n'est pas une surprise, puisque nous avions indiqué que c'était l'objectif cible, à savoir stabiliser une fois de plus les taux communaux d'imposition. Je rappelle que c'est la 14e année successive que les taux d'imposition n'augmentent pas. Je précise même, je rappelle même qu'ils ont baissé deux années dans l'intervalle en 2007 et 2008 de mémoire, ou 2006 et 2007. J'ai toujours une hésitation sur les dates. Je rappelle également, parce que c'est un élément qu'il faut prendre en considération, que depuis de très longues années, il existe à Épernay une politique d'abattement qui est très favorable au niveau de la taxe d'habitation. Je rappelle que nous avons un abattement général à la base de 12,5% pour chaque contribuable et que nous avons notamment des abattements pour charges de famille qui sont de 15% pour les deux premières personnes à charge alors que le minimum est de 10% légalement et de 25% à partir de la troisième personne, le minimum est à 15%. Autant dire que nos taux d'abattement sont plus élevés que la moyenne, ce qui, évidemment, prive la ville d'un produit fiscal qu'elle pourrait avoir si elle avait les abattements des autres villes. Donc c'est un choix politique que nous assumons. Ce n'est pas un regret quand je dis ça, parce que nous aurions pu revenir sur cette politique d'abattement et revenir au niveau de l'abattement moyen des communes, ce qui nous aurait évidemment produit un produit fiscal supplémentaire, ce qui aurait donc engendré potentiellement une baisse des taux de taxes d'habitation de 3,68%, ce qui représente 17% d'impôts en moins. Ce n'est pas le choix que nous avons fait. Nous avons maintenu depuis très longtemps ces abattements pour charges de famille qui sont encore une fois plus généreux pour les familles à partir de 3 enfants notamment, ce qui correspond à notre conception d'une politique fiscale juste et nous en assumons pleinement les conséquences, ce qui effectivement renchérit de 3,68% le taux des impôts tel qu'il pourrait être si le revenu n'était pas impacté par ces abattements. Voilà, donc c'est pas, encore une fois, évidemment, on peut se féliciter du fait que les taux ne progressent pas. Pour autant, ça ne signifie pas que les impôts soient stables pour les familles, puisqu'il y a la réactualisation des bases qui est votée chaque année par le Parlement. Hein, on en parle tous les ans dans cette instance. Mais je pense qu'il faut quand même mettre en avant le fait que pour la 14e année consécutive, il n'y a pas d'augmentation de taux à Épernay, ce qui démontre que les choix que nous avons faits en matière de gestion, la rigueur que nous nous imposons en termes de gestion, explique en partie cette évolution globalement positive. Il va de soi que si nous avions laissé filer un certain nombre de dépenses de fonctionnement, si nous n'avions pas la même vigilance ou la même rigueur sur les choix que nous faisons en termes d'organisation, nous aurions, comme d'autres collectivités, une fiscalité en croissance, ce qui n'est pas le cas ici. Voilà, y a-t-il des questions sur ce rapport? J'imagine que oui. Monsieur Angers, pour commencer.
Oui, monsieur le maire, chers collègues. Donc vous êtes satisfait du maintien du niveau. Nous, avec William Richard, nous aurions été satisfaits d'une baisse de ces taux pour deux ou trois raisons. D'une part, parce que nous avons un public qui a épargné et désormais, par le biais de l'agglomération impactée par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, alors que c'est un public qui, hier, était bien souvent exonéré de taxes d'habitation. Donc c'est un public qui se trouve fiscalité davantage qu'il ne l'était hier par, je dirais, le couplage dans ce domaine de l'activité fiscale de l'agglo et de celle de la commune. Et puis ensuite, nous avons un certain nombre de propriétaires fonciers qui ont des habitations à caractère modeste et qui se trouvent quand même néanmoins très largement impactés par la fiscalité. Et on pense que dans les conditions actuelles, que au regard de perspectives sociales qui ne sont pas forcément réjouissantes, la municipalité aurait pu faire un effort de limitation de ces taux eu égard à ce public de caractère modeste. Rappelons aussi les taux je dirais de personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté à Épernay. Nous avons un spectre social très large à Épernay. Il ne faut pas simplement voir la situation fiscale au travers du prisme des seuls revenus ou des seules situations à revenus importants. Et donc, avec William Richard, nous voterons contre pour les motifs que je viens d'évoquer. Nous aurions donc souhaité une baisse des taux.
Merci. D'autres prises de parole ? Pas d'autres interventions ? Donc, je répondrai simplement... Je peux comprendre votre souhait de voir la baisse des impôts réalisée alors qu'aujourd'hui nous sommes sur une stabilisation des impôts. Je voudrais quand même relever une remarque concernant la TOM. La TOM a été instituée il y a maintenant, je crois que c'est 2 ans, Daniel, ou 3 ans ? 2 ans ? Quand on a institué la TOM, on a baissé à due proportion les impôts locaux. Hein, on n'a pas... Avant la TOM, finalement, le budget déchets était alimenté par les impôts locaux, ce qui n'était pas l'esprit de la réglementation. Et quand on a, vous en souvenez très bien, quand on a créé la TOM, on a calculé le produit de la TOM, et ce produit de la TOM, on l'a réduit des impôts, pour pas qu'il y ait la double peine, pour pas qu'on ait à la fois un impôt, les taxes ménages qui supportent le budget des déchets, et en même temps qu'on crée une recette pour le budget des déchets à côté. Donc on a baissé de mémoire à l'époque les taux de, je crois que c'était 27%. 24%, pardon. 24%, c'est-à-dire qu'on a fait en sorte que ce soit, ça ne coûte pas un centime de plus aux Sparnassiens. Alors vous allez me dire que ce n'est pas les mêmes contribuables qui ont payé, certains étaient exonérés d'impôts et se sont retrouvés avec la TOM. Sauf que l'assiette de la TOM, c'est tous les producteurs de déchets ménagers. Et je trouve normal, personnellement, et j'assume ce choix, d'abord c'est la loi qui l'a fixé, hein, c'est pas nous qui l'avons souhaité, c'est la loi qui fixe effectivement que cet homme est payé par tous les producteurs de déchets ménagers, quels qu'ils soient, quel que soit leur niveau de revenu, aussi parce que c'est un impôt qui se veut responsable, c'est celui qui produit les déchets qui paye pour ses déchets. C'est la taxe pollueur-payeur, quelque part. Et je trouve que, d'abord, on n'a pas la faculté de jouer là-dessus. C'est-à-dire que si même on avait voulu exonérer une catégorie de Sparnassiens, on n'aurait pas pu le faire de par la loi. Et deuxièmement, vous savez comme moi que cette TOM, elle a voulu, cette fiscalité sur les déchets, a été voulue pour responsabiliser chaque producteur de déchets. Et on est tous responsables des déchets qu'on produit, quel que soit notre niveau de revenu. Donc de ce point de vue, le choix qui a été fait, on ne peut pas revenir dessus aujourd'hui. Et en ce qui me concerne, je l'assume totalement. La deuxième remarque que m'inspire votre intervention, c'est que j'ai en tête qu'à plusieurs reprises, vous auriez souhaité qu'on fasse des choix politiques qui nous engage davantage dans la dépense. William Richard le sait bien, quand on intervient pour demander que la piscine de Bernon... Non, mais puisque M. Angers a parlé pour vous deux, en tout cas annoncé le vote pour vous deux, je vous assimile à Jean-Paul Angers, vous avez souhaité, par exemple, qu'on maintienne des équipements très déficitaires comme la piscine de Bernon, en critiquant nos choix à l'époque, et aujourd'hui, vous demandez des baisses d'imposition, alors même que vos propositions d'hier auraient été, nous auraient conduit inévitablement, obligatoirement, automatiquement, à augmenter les impôts. Donc, je pense qu'il faut être cohérent à un moment ou à un autre. À un moment, il faut se dire, voilà, si je veux plus de services publics, je dois assumer plus, j'entraîne plus de dépenses publiques, et donc je demande plus de fiscalité. Le choix que nous faisons, en ce qui nous concerne, c'est de dire, nous estimons que le taux de participation des citoyens à la vie locale à travers la fiscalité est aujourd'hui élevé, qu'on ne peut pas se permettre de le solliciter davantage, et donc on fait des efforts de gestion pour faire en sorte de ne pas aggraver ce coût. Si aggravation du coût il y a, il tient simplement à l'ajustement par l'inflation que j'évoquais tout à l'heure, l'actualisation qui, de tout temps, s'est votée à l'Assemblée nationale et qu'on peut critiquer. On peut estimer que je crois que c'est 2,2 cette année qui ont été votés. Ça a été en d'autres temps 0,7, 1,5. Tout dépend de la visibilité qu'on a sur l'inflation et sur l'évolution des prix d'une manière générale. Mais je crois que le choix que nous faisons, il s'inscrit dans une stratégie qui a pour elle d'être maintenue depuis un certain nombre d'années, c'est-à-dire qu'on ne fait pas peser sur le contribuable plus de dépenses du fait des choix municipaux. Mais en même temps, on fait en sorte de se contenir dans nos choix de gestion, c'est-à-dire de nous imposer une certaine rigueur, ce que vous ne faites pas visiblement, puisque vous voulez à la fois plus de services publics, mais moins d'impôts, ce qui est quand même une contradiction que je relève volontiers. Pardon ?
Oui. Je veux de l'attractivité pour le territoire, parce que je pense que le taux de fiscalité que nous avons, c'est l'un des éléments qui fait aussi que notre territoire n'est pas spécialement attractif. Quand je dis notre territoire, c'est Épernay intramuros et immédiatement à côté. On voit qu'on a une perte de la population. Alors, bon, il y a la dimension du développement économique qui, à mon avis, n'est pas suffisamment développée. Et puis, il y a cette dimension fiscalité qui freine aussi un certain nombre d'acteurs à venir s'installer dans notre ville.
Monsieur, j'allais dire Monsieur Perrin, parce que je vois votre... Vous êtes derrière l'étiquette d'Hélène Perrin. Donc...
Oui, je pense... Oui, je sais pas. Ça ne me pose aucun problème, ce lapsus, cette confusion. Monsieur le maire, chers collègues, je voulais faire une petite parenthèse technique avant, si vous me permettez, qui n'a rien à voir avec... C'est par rapport aux tablettes... Par rapport aux tablettes, les difficultés qu'on peut rencontrer épisodiquement avec. J'ai sollicité l'aide compétente de Mme Iwen la semaine dernière parce que je me suis exprimé pendant plusieurs jours pour essayer d'avoir l'ordre du jour. Bon, j'ai été dépanné par un envoi par mail. J'ai regardé donc l'ordre du jour sur l'ordi. Et c'est quand même ennuyeux, quoi. C'est ennuyeux de ne pas... Voilà, je le dis, c'est bien d'avoir des outils modernes. C'est pas que je sois contre, bon, j'en raffole pas non plus, mais c'est bien... Bon, ceci étant, ça pose problème quand on veut... voilà. Et là, tout à l'heure, c'est le jeune collègue, là, enfin, notre... qui nous, Alexis, qui a dépanné, parce que sinon, j'avais pas l'ordre du jour. Voilà. Enfin...
Non, mais là, ça peut arriver.
Sous l'œil.
C'est évidemment pas volontaire, mais dès que vous constatez une difficulté de téléchargement, appelez la mairie et s'il faut se déplacer, on se déplace pour vous dépanner. Parce que ça peut arriver à des élus de la majorité comme à des élus de l'opposition. L'objectif est que chacun ait l'information au bon moment.
Alors, pour, revenons à la question qui fait l'objet de la discussion. L'exemple de la piscine est mal choisi, je crois. J'en suis convaincu. La piscine, déjà d'une part, systématiquement, lorsqu'on propose quelque chose, vous opposez en face des augmentations d'impôts, que ce soit sur le transport, vers une progressivité de la gratuité du transport public, que ce soit dans d'autres domaines. Dernièrement, nous avons demandé qu'il y ait un gel des tarifs municipaux, d'ailleurs pour lesquels j'attends toujours une réponse sur le débours que ça pourrait représenter. Et vous nous avez exposé que de toute façon, on ne pouvait pas parce qu'il faudrait augmenter d'autant la fiscalité ou faire rentrer de l'argent d'une autre manière. Et je pense que l'exemple de la... vous opposez cela avec ce qui, pour moi, n'est pas... Enfin, c'est pas opposable. Le bassin de Bernon, c'était un équipement qui représentait un intérêt. Et quand on voit encore l'été dernier, ces 3 mois de chaleur ou presque, et les mômes de Bernon ou d'ailleurs, parce qu'à Bernon, il n'y a pas que les mômes du quartier hein, qui utilisaient le bassin, et pour une économie de combien? Pour une économie de combien? Ah, vous avez gagné 2,5 postes pendant 3 mois, ça à peu près, et vous n'avez pas fait l'investissement concernant la modernisation ou la mise aux normes. Donc, vous opposez à chaque fois qu'il y a une demande le fait que ça entraînerait une augmentation des impôts, etc., etc. Et je pense que c'est pas de cette manière qu'il faut voir. Par ailleurs, vous vous félicitez, comme à chaque exercice d'ailleurs, de votre très bonne gestion, de la rigueur dans les dépenses de fonctionnement, etc., etc. Ce qui fait que chaque année, enfin ça fait 3 ans de suite en tout cas, on a des budgets en excédent. Eh bien, c'est pas plus mal. Alors utilisons l'excédent pour répondre à des demandes sociales aussi. Aussi, je n'ai pas dit exclusivement. Hein, aussi, voilà. C'est pour ça que je pense ce que je voulais... dire, c'est que votre exemple me semblait très mal choisi.
Ben, juste un mot de réponse. Il n'est pas mal choisi, cet exemple. Il est choisi tout simplement parce que je rappelle quand même que quand la piscine de Bernon a été fermée, elle générait en 2 mois de temps un déficit de fonctionnement de 85 à 90 000 euros. Et que s'il avait fallu la remettre en état, il aurait fallu, compte tenu des contraintes, loi sur le handicap, etc., qui n'existaient pas préalablement et qu'il aurait fallu évidemment mettre en œuvre, investir 450 000 euros. J'aurais pu citer l'exemple de la restauration scolaire qui a été externalisée et qui aujourd'hui donne pleinement satisfaction aux enfants, aux enseignants et aux parents d'élèves à un coût moindre que quand on devait assumer le fonctionnement d'un restaurant scolaire qui était devenu en partie désuet dans son fonctionnement, tout simplement parce qu'il avait une trentaine d'années, voire plus d'âge, et que les exigences d'une production de repas d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec ce qui pouvait exister dans les années 70. J'aurais pu citer d'autres exemples. Et puis quand vous laissez entendre qu'on ne fait pas de choix sociaux, ou en tout cas pas suffisamment, permettez-moi de rappeler quand même que le budget du CCAS est en augmentation, que nos abattements fiscaux profitent aux familles nombreuses qui sont généralement des gens qu'il faut peut-être aider plus que les gens qui n'ont pas de charge de famille, que on a créé au cours de ce mandat à la fois des initiatives de type carte senior, carte jeune, mutuelle groupée, microcrédit, le BAFA, l'aide au BAFA pour passer le BAFA à 0 euro, la bourse au permis, on en parlera tout à l'heure, des bourses pour étudiants, des heures gratuites de stationnement, qui sont aussi, ou l'autopartage, qui sont aussi des dispositifs à caractère social, puisque quelque part ils permettent à une population par définition moins aisée que le reste de la population, que la moyenne de la population, de bénéficier ou de services à coût gratuit ou à coût réduit, ce qui est l'essence même d'une politique sociale. Donc je ne veux pas me laisser enfermer dans cette remarque qui consisterait à dire que finalement on n'a pas de politique sociale parce qu'on n'a pas voulu baisser les impôts. Je pense que les choses sont plus compliquées que ça, que si on est amené à augmenter les tarifs municipaux à certains moments, c'est tout simplement parce que les charges, elles, augmentent. Nos charges de personnel augmentent chaque année, nos charges de gestion augmentent parce que le chauffage, parce que le gaz, parce que l'électricité, etc. augmentent et qu'on doit effectivement répercuter ces charges, faute de quoi nos marges de manœuvre diminueraient d'année en année et au bout du comme une peau de chagrin, et à la fin il ne resterait plus grand chose de service public. Donc je pense que notre gestion de la fiscalité est une gestion qui est responsable et raisonnable. J'aimerais évidemment proposer ou annoncer des baisses d'impôts, mais j'ai pas pour habitude d'annoncer des choses que je ne suis pas en capacité de faire. Si demain, effectivement, l'État voulait bien desserrer un peu l'étau dans lequel il a enfermé les collectivités locales, on aurait peut-être une marge de manœuvre. Pour l'instant, on ne l'a pas. Et on n'a pas non plus la visibilité qu'on aimerait avoir. Donc je pense que s'efforcer de maintenir les impôts au même taux tout au long de ces années, c'est en soi un choix voulu, et je pourrais l'illustrer en me tournant vers les adjoints qui, chaque année, font, ils le savent, proposent des budgets avec leurs services qui sont des budgets contraints parce que la priorité, c'est de ne pas augmenter le prélèvement d'impôts supplémentaires. Alors, d'autres collectivités peuvent faire des choix différents, mais nous, on part en quelque sorte des recettes et du volume de recettes raisonnable qu'on entend prélever pour construire des politiques, alors que ce n'est pas forcément le cas dans toutes les collectivités. Voilà les éléments que je souhaitais vous apporter en réponse à votre intervention. Sur ce rapport, y a-t-il des votes contre? Donc deux votes contre, trois. Il n'y a pas de pouvoir. Hein. J'ai pas lu. Ben non, j'ai pas lu de pouvoir de Madame Perrin tout à l'heure. Vote contre 3, abstention, le rapport est adopté. Je vous remercie. Nous passons au rapport suivant. Rapport 2.2, Christine Mazzi.
Oui, il s'agit d'une décision modificative qui concerne le budget parking. Donc, afin de permettre le remboursement des amodiataires suite aux régulations des charges amodiées, nous ouvrons cette décision modificative par l'ouverture d'une ligne de crédit pour nous permettre le remboursement.
Merci. Des questions? Pas de questions? Avis contraire? Abstention? Le rapport est adopté. Nous passons au rapport 2.3. Christine Mazzi.
Donc, divers groupements et organismes ont adressé des demandes de subventions auxquelles je vous propose de répondre. Et il y a une délibération aussi qui a été déposée sur table.
Qui concerne?
FITDES.
C'est quoi ça? C'est quoi?
C'est l'animation fonction de direction des scolaires.
Ah d'accord.
On en parle tout à l'heure, je présente le dossier tout à l'heure, mais j'ai oublié de mettre.
Ok, des questions sur ce rapport 2.3, attribution de subvention, Monsieur Angers.
Oui, moi je demande évidemment un vote séparé pour le premier point qui concerne l'association sportive de l'automobile de Champagne pour 8 700 euros. Alors, évidemment, je voterai contre cette délibération parce que j'ai bien pris bonne note de tout ce qui s'était dit de fort intéressant lors de la réunion de présentation de l'ambition plan climat à l'agglomération et qui demandait aux citoyens de l'agglomération de faire les efforts nécessaires pour endiguer le réchauffement climatique, hein, puisque maintenant la question n'est même plus d'endiguer le réchauffement climatique, mais elle est de s'adapter au réchauffement climatique. L'expert qui présentait la situation, qui est un ancien journaliste du Monde, je crois, de mémoire.
Je ne sais pas.
Il me semble. Enfin, a présenté...
Libération, moi, dit-on.
Libération, pardon. A présenté les choses de manière très intéressante. Et d'ailleurs, on a pu, au travers de son argumentaire, retrouver un certain nombre de considérations ou d'éléments qu'on porte devant des tribunes telles que celle-ci depuis bien des années. Les inquiétudes sont vives hein, quand on parle d'un réchauffement climatique qui pourrait atteindre très facilement 2 degrés dans les prochaines décennies, quand les périodes caniculaires passeront à 2 mois par an au lieu de la dizaine de jours que nous vivons actuellement. Il suffit de connaître le mal-être qui nous pèse à tous sur les épaules durant ces périodes pour imaginer dans quel pétrin on va mettre nos générations à venir. Donc moi, je ne veux pas que mon nom soit associé à cette délibération. Je ne veux pas que mes enfants, mes petits-enfants, j'en ai pas encore, mais je ne veux pas qu'ils lisent à un moment que j'ai pu être associé à une telle délibération et les laisser dans une telle panade dans les années et décennies qui viennent. Voilà, j'ai dit.
Bon, d'autres questions sur le sujet? Non, votre point de vue ne me surprend pas, puisque ça fait maintenant plusieurs années que vous développez les mêmes idées. J'assume totalement que ce rallye qui en était à sa 23e édition se déroule toujours à Épernay. pour le plus grand bonheur des amateurs de voitures, mais aussi pour la plus grande satisfaction d'un certain nombre de métiers qui fonctionnent beaucoup grâce au rallye. Je pense au il suffisait de voir les queues qu'il y avait dans les boulangers samedi matin, l'hôtellerie, la restauration, toute une série de services touristiques qui ont fait le plein ce week-end. Encore une fois, si je j'effectue comme vous un retour en arrière et que je reviens sur la séance que nous avons eue l'autre jour au Palais des Fêtes ou à la Maison de la Vie Associative, je ne sais plus exactement, sur l'exposé d'Ambition Climat. L'ambition climat ne prévoit pas non plus de supprimer tous les événements qui, par définition, génèrent des concentrations de population importantes. Quand on a 7500 personnes qui viennent ce week-end au Cadre Noir, j'en profite pour dire qu'il reste quelques places pour ceux qui n'en ont pas. Je pense qu'il déplace plus de CO2 que le rallye ce week-end, que 135 voitures inscrites au rallye. Tout rassemblement de population, tant qu'on continuera à se déplacer les uns les autres en voiture, évidemment, génère des conséquences en termes de qualité d'air ou en termes de pollution. Je pense que c'est plus dans nos gestes de la vie quotidienne, et c'est d'ailleurs la démonstration que nous a apporté l'intervenant l'autre jour, qu'il faut que les choses évoluent. C'est plus en changeant de type de voiture. Et je voudrais, parce que je l'ai déjà dit, mais insister sur un point, c'est que la compétition automobile, elle a plusieurs mérites. D'abord, celle de satisfaire un public friand, que ce soit devant la télévision ou autour des grands prix de Formule 1 ou autour des rallyes automobiles. Et son autre mérite, c'est de faire évoluer la technologie qui ensuite deviendra celle des véhicules que nous utiliserons. Par exemple, c'est la Formule 1 qui a permis la création du moteur hybride en récupérant au freinage la force créée par le freinage, ça a permis d'alimenter un micro-moteur hybride qui permet l'aide au démarrage. Donc le rallye automobile, sur des questions de tenue de route, sur des questions de sécurité, fait aussi progresser le monde automobile. Et comme nous sommes dans un monde automobile, je sais que nous avons des différences de point de vue là-dessus, mais qui est un monde automobile qui existe et qui existera toujours sous des formes nouvelles. On ne sera plus, à mon avis, très longtemps dans le moteur thermique et j'imagine qu'on aura dans quelques années aussi des véhicules autres que thermiques qui concourront dans des rallyes automobiles. On voit déjà aujourd'hui les grands prix de Formule 1 électrique qui, d'année en année, progressent dans l'opinion et qui peut-être un jour supplanteront les rallyes de voitures thermiques Formule 1. Peut-être qu'un jour, ce sera la même chose sur le rallye, mais ce n'est pas en supprimant toutes les activités humaines, tout ce qui fait la joie, le plaisir, qu'on règle le problème de la planète. Je pense que c'est plutôt dans des actes quotidiens que nous faisons tous à des degrés moindres que nous parviendrons à résoudre ce genre de questions. Donc je ne suis pas, en ce qui me concerne, un adepte de l'écologie punitive qui consisterait à se priver de tout. Sous prétexte que ça peut avoir des conséquences sur le climat ou sur la qualité de l'air. Je pense qu'il faut avoir une approche raisonnée, une approche progressive, une prise de conscience collective. C'est le sens de l'action que nous menons. Et ça n'exclut pas que, de temps à autre, nous accueillons, comme ce sera le cas autour de France, probablement plus de 1000 voitures, puisque la caravane du Tour et l'ensemble des accompagnants, c'est plus de 1000 voitures. Ce jour-là, il y aura peut-être un peu plus de pollution à Épernay, mais en même temps, c'est les choix que nous assumons, parce que la vie, c'est aussi des moments de plaisir, c'est aussi des moments de détente. Ils peuvent être culturels, ils peuvent être sportifs, ils peuvent être mécaniques parfois. Et je pense que c'est pas en privant tout le monde de ce genre de plaisir, avec des conséquences économiques que l'on connaît, qu'on règle le problème de la planète. Benoît, tu voulais dire un mot ?
Oui, merci Monsieur le maire, chers collègues. J'avais parcouru il y a quelques temps un petit article dans un site consacré au sport automobile, mais qui justement avait profité du rallye le Touquet-Pas-de-Calais, qui est un rallye qui a lieu juste avant le nôtre et qui est dans le même. qui regroupe un nombre de concurrents assez comparables, et on est à peu de choses près dans la même strate de classification sur le plan national. Et en fait, ils ont calculé ce que générait en CO2 le rallye. Mais ils sont allés vraiment très loin, puisqu'ils ont essayé d'identifier ce qui était émis par les voitures de course, ce qui était émis par le public, ce qui était émis aussi par les véhicules qui apportent le matériel et autres. Et en fin de compte, nie pas hein, le fait qu'il y a effectivement des émissions de CO2, mais quand ils ont tout calculé, les voitures de course, c'était 3% du total, surtout le week-end. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'émissions de CO2, mais ce qui veut dire aussi que par rapport à l'événement dans sa globalité, la course représente 3% des émissions de CO2 générées sur l'ensemble du week-end au travers des émissions pour que les spectateurs se déplacent, pour qu'ils viennent ici. Voilà, donc c'est quand même c'est assez révélateur. Effectivement, des événements comme cela génèrent des émissions de CO2, mais pour autant, les voitures de course en elles-mêmes, on le voit là, sont, je ne peux pas dire que c'est infime, mais c'est une partie peu significative de tout l'ensemble.
J'entends qu'il faut...
Peut-être que les merguez dans les buvettes
qu'il faut relativiser,
ont produit davantage.
C'est exactement sur cette base d'exposé qu'est parti l'intervenant de l'autre jour, en nous démontrant que chaque acte de relativisation personnelle et voire collective dans les efforts à entreprendre était la source, je dirais, du succès pour avoir un réchauffement climatique qui soit encore supportable. On ne parle même pas d'enrayer le réchauffement climatique, pour avoir des conditions de vie qui, dans 5 ans, seront acceptables. Donc, moi, je veux bien qu'on relativise tout, qu'il n'y a rien d'important, que les émissions de particules, c'est pas très grave, on est juste à la limite. Simplement, il y a des gens qui meurent chaque année de problèmes respiratoires, et il y a aussi des éléments statistiques derrière tout ça qu'il faut pas renier. On peut pas nécessairement entendre ce genre d'arguments. Je crois qu'effectivement, Monsieur le maire l'a aussi souligné, c'est par les efforts au quotidien, mais les efforts de tous, à la fois des individus, mais aussi des collectivités. Et je me permets une petite remarque. J'ai lu dans la presse, dans la semaine, au sujet de ce plan Ambition Climat, que ça avait du mal à décoller au niveau des populations. Moi, je me poserais quand même la question. Je me poserais fermement la question de savoir si vos politiques, ambigu en la matière, parce qu'on ne peut pas être à la fois le maire du développement durable et le maire qui soutient un certain nombre de lobbies. C'est incompatible. Moi, je me demande si notre manière de présenter les choses, si votre manière de présenter les choses n'est pas en train de repousser les meilleures ardeurs en la matière. Donc il y a quand même, sur le sujet, à s'interroger, à la fois sur la méthode et puis sur les actes symboliques qu'il faut porter. Les actes symboliques qui démontrent que vraiment, on y va. Parce qu'on ne peut pas encourager les gens à dire « Allez-y, faites des efforts quotidiens, et puis nous, à Épernay, le dimanche, on s'en fout, on organise notre rallye. » Moi, je crois que les gens ne sont pas dupes de la situation. Donc,
un dimanche par an, monsieur Angers. C'est pas tous les dimanches. Juste un mot là-dessus. Souvenez-vous du sens de l'intervention, on y était tous les deux, de notre consultant, qui faisait comprendre que, et a d'ailleurs à plusieurs reprises, quand il citait ces différents exemples, il citait l'exemple, par exemple, de prendre l'habitude d'utiliser un couvercle sur une casserole qu'on fait bouillir et l'économie que ça génère. Il voulait, et à chaque fois, il disait, mais est-ce que finalement, ce qu'on va vous demander vous prive de quelque chose? Et je suis intimement convaincu qu'on réussira à relever le défi du climat si on change les choses dans notre comportement du quotidien. C'est-à-dire que si tous les jours on trie mieux les déchets, si tous les jours on met le couvercle quand on fait cuire une casserole d'eau et plutôt que de faire cuire sans couvercle, si tous les jours on retire les veilles, etc. Je crois beaucoup plus à ce genre de geste qui, d'abord, est indolore en termes de perte de plaisir de vivre, plutôt qu'on s'interdise de sortir de chez soi sous prétexte que dès qu'on prend sa voiture, on consomme du carburant. Si demain on peut plus aller sur des grands rassemblements, sur des grands spectacles, sur des grands festivals, parce qu'effectivement la concentration des véhicules fait qu'on dégrade l'environnement, les gens vous diront mais à quoi bon vivre, où est encore le plaisir de vivre si on peut pas s'accorder de temps en temps ce plaisir-là. Et en plus, on sait que, et la démonstration de Benoît est frappante, que ce genre de manifestation, c'est peanuts par rapport à ce que coûte le gasoil utilisé par les pétroliers, par les bateaux, les croisières, etc., par rapport à la question qui revient régulièrement du trafic aérien, par rapport à des gestes de la vie quotidienne qui fait qu'on a des voitures qui consomment beaucoup trop aujourd'hui. Mais je pense qu'il faut pas... Si on commence par priver le citoyen de tous ces petits plaisirs au nom de l'écologie, je peux vous garantir que très rapidement, ils seront tous contre l'écologie, ce sera contre-productif. C'est la notion d'écologie punitive, et c'est sans doute probablement la raison pour laquelle le mouvement écologiste, qui a eu le mérite d'éveiller les consciences à une époque, est devenu aussi impopulaire. Pourquoi les gens ne suivent plus les écologistes ? Parce qu'ils apparaissent comme des gens qui, j'allais dire, ne prônent l'écologie que par la punition ou par la sanction. L'interdiction d'eux, de ci, de ça, etc. Et je pense que c'est une autre approche qu'il faut... je pense qu'on pourrait se rejoindre sur un certain nombre de sujets sur la question, parce qu'on est, vous comme moi, convaincus de la nécessité de changer. Quand on, par exemple, on décide de développer le transport public entre Haï et Épernay, je pense qu'on se retrouve sur un sujet comme celui-ci, parce qu'on sait que combien les bénéfices seront importants, et beaucoup plus importants qu'un rallye d'Épernay. Quand on décide de développer l'autopartage, quand on décide d'engager une politique vigoureuse de lutte contre la production des déchets ou l'enfouissement des déchets massifs, alors qu'on pourrait trier beaucoup plus, je suis persuadé que sur des politiques comme ça, on se retrouvera forcément. Maintenant, faut-il effectivement décider du jour au lendemain d'abandonner tous les rassemblements, on va dire les habits de lumière, on va dire les spectacles du Millésium, on va dire le Tour de France, on va dire le rallye, sous prétexte que ça fait venir du monde et que ça génère des conséquences écologiques, ben, c'est le meilleur moyen pour qu'on prenne à rebrousse-poil l'ensemble de la population et que finalement, on régresse plutôt qu'on avance dans la bonne direction. C'est ma conception des choses. Je respecte complètement la vôtre. Maintenant, c'est aux Sparnassiens aussi de se prononcer. Je pense que dans le cadre d'Ambition 21, ils pourront le faire. Il y avait juste Jonathan, je vous passe la parole après.
Oui, merci, monsieur le maire. En effet, Jean-Paul Angers a pris l'exemple des gestes du quotidien. Mais sa présentation est partielle et partielle, puisque dans le geste du quotidien, il y a quotidien. Et c'est bien ça qui a été présenté, c'est de dire, si on le fait tous les jours, ça a un impact fort. Là, c'est un événement qui a lieu une journée et demie, deux jours par an. Et c'est ça qu'il faut voir, c'est les changements en profondeur de comportement habituel qu'on peut avoir. Et c'est là que le changement se fera. Ce n'est pas sur un événement, si une fois on part en vacances, si une fois on se dit « allez, je vais faire une sortie sportive avec un véhicule ». Ce n'est pas ça qui va changer, c'est ponctuel. Donc c'est ça qu'il faut qu'on regarde, c'est les actes du quotidien qui seront faits dans la durée. Ensuite, vous l'avez vu comme moi, dans le diagnostic, il était présenté où étaient les impacts des gaz à effet de serre. Et sur le territoire de l'agglo d'Épernay, on n'y retrouve pas la mobilité. C'était clair, d'après les études qui ont été faites, c'était la mobilité faisait partie de ceux qui avaient le moins de gaz à effet de serre. On avait devant le résidentiel, le chauffage des bâtiments, la consommation dans les logements, et devant encore l'industrie, parce qu'on a un fort territoire industriel qui forcément est consommateur d'énergie. Donc c'est là qu'il faudra qu'on concentre nos actions, puisqu'on aura des gains rapides et forts en la matière. Donc il faut qu'on aille là-dessus. Les contributions qui commencent à être données, parce que vous disiez que le site avait du mal à démarrer. En effet, il a démarré il y a 15 jours, 3 semaines bientôt d'ici mercredi. Et on a déjà quelques contributions. Et ce qui est plus important aussi, c'est qu'on a cette consultation Internet, mais on a aussi, et je crois que c'est peut-être le plus important, l'échange qu'on peut avoir en direct, puisqu'on aura des ateliers participatifs où il y a déjà plus de 60 personnes qui sont inscrites au Club Climat. C'est des gens qui se sont inscrits et qui, finalement, s'ils sont inscrits dans ces Clubs Climat, ne vont pas contribuer au forum, mais vont participer dans les ateliers qu'on va faire et qu'on va multiplier. Après, on a malgré tout prolongé cette consultation, parce que c'est vrai que pourquoi l'arrêter dès qu'on commence les ateliers ? On a demandé au cabinet de prolonger toute la durée de nos concertations, c'est-à-dire jusqu'à peut-être mai, ce forum. Donc il y aura des choses qui vont être dites, et je verrai si il y a beaucoup de Sparnassiens qui prônent la suppression du rallye.
Merci, monsieur le maire. Voilà, c'est assez significatif de votre manière, d'une façon générale, d'aborder les choses. Je ne pense pas qu'il ait été dit ici que c'était tout ou rien, qu'il fallait arrêter le rallye, etc. Il s'agit d'engager un processus. Si vous me permettez.
Oui.
Merci. Et je voudrais simplement, parce que cette soirée, la présentation du plan climat, hein, de ce que ça engage comme démarche, etc., etc., très intéressante d'ailleurs. À titre personnel, très intéressant. Il y a bien sûr les gestes du quotidien. Faire chauffer ses pâtes, mettre, ou faire cuire des pommes de terre à l'eau, mettre le couvercle, etc. OK. Mais il a bien été dit que les collectivités devaient jouer un rôle. C'est justement ce que nous trouvons contradictoire. C'est à l'initiative de l'agglomération, avec son président, Monsieur Franck Leroy, on organise une belle présentation. D'ailleurs, d'un point de vue pédagogique, je trouve qu'elle était bien présente. Enfin, ouais, ça me convenait tout à fait. Il n'y a pas de souci. Et surtout sur le contenu, bien sûr. Et donc, que fait-on pour engager? Parce que, bien sûr, trier les déchets, etc. Il y a encore une réunion la semaine dernière à l'aglo sur le nouveau plan, les nouvelles contraintes qui nous sont... qui vont venir, qui viennent déjà d'ailleurs, que ce soit d'un point de vue réglementaire et autres. Donc, c'est ça la question. C'est qu'est-ce qu'on engage comme démarche? Et ça apparaît contradictoire de faire de la pub, ce que j'appellerais de la communication. Dans le temps, on disait de la propagande. De faire sur un thème. Eh oui.
Vous êtes bien placé pour en parler.
Absolument. Mais alors. Et j'ai pas de problème avec ça. Je n'ai aucun problème. Alors vous avez. Les modernes ont remplacé le terme propagande par le terme communication. Et alors, dans ce domaine, vous excellez. Il faut le reconnaître. Pendant 15 jours, tous les deux jours, on avait un bon dos dans l'Union, on a ci, on a ça.
J'y suis pour rien.
Excellent. Mais c'est pas ça le propos. Le propos, dire, on engage, y compris, que fait la collectivité, de manière marquante, pour s'engager dans ce processus. Encore une fois, ça a été signalé, dit, par le consultant, par l'intervenant. Voilà, c'est ça. C'est pas demain en race gratis. Il n'a jamais été question de ça dans nos propos.
Non, mais sans
même
vouloir,
si ça serait bien, peut-être. Mais bon,
sans vouloir prolonger trop longtemps ce débat, permettez-moi de rappeler en quelques mots qu'on a engagé à travers les certificats d'économie d'énergie des travaux considérables depuis 2 ans, aussi bien à la ville d'Épernay qu'à l'agglomération, pour changer des chaudières, isoler des bâtiments. On développe le transport public, vous le savez, on en a parlé. On développe le transport à la demande, là aussi en substitution de transport individuel parfois. Le zéro phyto, Joachim pourra en parler mieux que moi. Les investissements records en matière de préservation de la ressource en eau. Enfin, on fait dans toutes nos politiques, je crois pouvoir dire que c'est quelque chose de très transversal, d'énormes efforts en matière d'environnement. Et on vient nous renvoyer en contrepartie le rallye. Le rallye, je conçois que le rallye apporte une pollution, mais le rallye, c'est peanuts à côté de tout ce qui est fait et tout ce qui est produit par ailleurs. Faut-il s'attaquer au symbole que représente le rallye ou s'attaquer aux problèmes de fond que sont la notion des déplacements, la notion de la pollution issue du monde économique? J'aurais pu citer Epsivin, la démarche qui est engagée avec le comité Champagne sur le sujet. Faut-il pas plutôt s'attaquer à la pollution qu'on ne voit pas, qui est par exemple l'isolation des bâtiments, qui est un vrai sujet de préoccupation dans une région comme la nôtre. Je pense qu'il faut s'attaquer au fond du problème, aux gestes du quotidien, comme le disait tout à l'heure Jonathan, parce que c'est là qu'on ira chercher des progrès conséquents, alors que si on s'attaque simplement aux petits plaisirs d'un week-end par an, j'ai peur que finalement, ce soit l'écologie qui en souffre, parce que les gens diront, de toute façon, ils nous ont privés de nos petits désirs. Tout ce qui faisait qu'on avait été content de se retrouver, de sortir, d'aller voir des voitures, d'emmener les enfants, etc., on ne peut plus le faire parce que ça n'existe plus. Et finalement, qu'est-ce qui nous reste? Est-ce que la situation du climat a évolué? Non. Donc, encore une fois, on a un débat tous ensemble là. Je pense qu'on s'est tous retrouvés derrière le débat de l'autre jour. Et je pense que dans cette enceinte, tout le monde est sensibilisé à la question du climat. Ensuite, c'est une question de stratégie. Est-ce qu'il faut effectivement s'attaquer à des micro-événements comme ceci, ou est-ce qu'il faut s'attaquer aux problèmes de fond? Je pense que vous en conviendrez, que c'est vraiment les politiques de fond qui nous permettront d'évoluer en la matière, plus qu'un vote là qui est un peu symbolique. Alors c'est le sujet que
symbolique. Je pense que dans 10 ans, de toute façon, le rallye il est mort. Dans 10 ans, on n'en fera plus.
Non, je suis pas d'accord.
Parce
avec
que
vous.
Dans 10 ans, il y aura déjà 1 degré de plus. Et il y aura une pression environnementale qui sera telle, une pression sociétale qui sera telle qu'on n'en fera plus. Et méfiez-vous quand même dans ce domaine-là, parce que sur ces sujets-là, tout ce qu'on vous demande depuis 20 ans que je suis, pour ma part, engagé dans la vie publique, finit par se réaliser. Nous, il y a 20 ans qu'on nous demandait, vous parliez de la liaison entre Haï et Épernay en transport public, vous y passez au bout de 20 ans. Donc, moi, j'ai l'impression que, surtout, ce qui vous manque, c'est peut-être pas de la mauvaise volonté, c'est simplement du courage politique pour être, je dirais, à l'heure des rendez-vous. Et vous faites les choses, à un moment, vous serez obligé d'y passer sous la contrainte, mais vous n'avez pas cette manière de devancer l'événement. Voilà, c'est tout. Je pense que le rallye, dans 10 ans, dans 15 ans, on n'en parlera plus, parce que ça sera plus possible.
Eh bien, je suis prêt à prendre le pari avec vous, de parier une bonne bouteille de champagne qu'on boira, j'espère, dans 15 ans tous les deux, quelles que soient nos fonctions respectives à ce moment-là. Mais non, je suis prêt à prendre les paris. Je pense que le rallye existera toujours. Simplement, il y aura des voitures hybrides et des voitures électriques et qu'elles iront peut-être encore plus vite que les voitures actuelles et que la société aura évolué. Vous savez comme moi qu'en 2040, les énergies fossiles seront interdites dans les véhicules, c'est-à-dire que tous les véhicules fonctionneront ou à l'hydrogène, ou à l'électrique, ou à l'hybride, enfin des formules diverses, et que voilà, c'est la tendance. Et heureusement, je m'en félicite. Hein, je le vis pas comme une perte de plaisir. J'ai simplement hâte que l'offre de véhicules se développe pour qu'on puisse plus vite accélérer la transition énergétique en la matière. Mais je pense pas du tout qu'on n'aura plus ce goût du plaisir et de la rencontre autour de voitures qui vont vite dans des chemins. Simplement, ces véhicules pollueront moins qu'aujourd'hui. C'est... Bien, sur ce...
J'ai de l'avance sur vous, mais je tiens à être le témoin exclusif en 15 ans.
Exclusif, pourquoi exclusif? Pourquoi exclusif? C'est la taille du flacon qui augmentera à ce moment-là. Bien, sur ce rapport, donc... Alors oui, donc vous demandez simplement à ce que le premier point soit séparé. Donc on fait un vote global hors... le premier point, avis contraire, abstention, le scrutin est donc c'est adopté. Et sur l'association sportive de l'Automobile Club de Champagne, avis contraire, 2, abstention, le rapport est adopté. Nous poursuivons, je pense que c'est Christine qui poursuit. Ah non, c'est Abida. Habitude, tu vois.
Oui, Christine,
monsieur le maire. Je vous propose, en application de la programmation 2019 des contrats de ville, d'autoriser le versement des participations de la ville d'Épernay selon le montant et modalités décrites dans le rapport qui vous a été adressé, à savoir qu'à la notification, on verse 50% et après la réalisation des projets, on complète. Donc, oui. On a 42 projets et 23 porteurs. Enfin, vous avez tous les détails dans vos tablettes.
Merci. Des questions sur ce rapport? Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Nous passons au rapport suivant. Je crois que c'est encore Abida.
Oui, c'est la bourse au permis. Donc, je vous propose d'approuver le versement de la bourse au permis de conduire d'un montant de 13 000 euros aux 15 candidats énumérés dans le rapport en votre possession. Et en même temps, je vous propose, comme vous le savez, qu'on peut... on peut attribuer un complément de 200 euros. Là, il y a deux Sparnassiens qui ont besoin de ces 200 euros pour finir leur permis. Donc, je vous propose, si vous voulez bien, qu'on leur donne.
Pas de questions. Je voudrais simplement préciser que depuis 2009, sans intégrer les bourses de ce soir, 372 bourses ont été attribuées. 136 ont été annulées parce que, pour une raison ou pour une autre, les personnes ont trouvé... une autre source de financement où ont décliné la proposition ou n'ont pas tenu leurs objectifs. 190 personnes ont réussi leur code et 125 ont obtenu leur permis, ce qui montre bien que l'esprit de cette aide, c'était de donner un coup de main à des gens qui sont souvent en recherche d'emploi et qui n'acceptent pas d'offres d'emploi parce qu'ils n'ont pas la capacité de se déplacer. Donc c'est une aide qui fonctionne plutôt bien. Et qui donc devrait profiter à 15 bénéficiaires supplémentaires à partir de ce soir.
Et comme les membres de la commission le savent, on est en train de revoir le mode d'attribution parce que la population, il y a de l'évolution, donc on remet à jour notre...
Sans compter que la politique de l'État évolue en la matière, puisque le prix du permis va changer, enfin il y a une... Je ne sais pas si ça s'est déjà traduit dans les textes ou si ça va se traduire dans les textes, mais il va de soi qu'on adaptera le dispositif.
Il s'adaptera par rapport à ce qui se fera.
Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Nous passons au rapport 3.3. Magali Carbonel.
Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, cette délibération donc concerne les tarifs des accueils de loisirs qui n'ont pas augmenté cette année. Je vous propose donc d'adopter les tarifs compte tenu de la modification des modalités d'attribution de l'aide de la MSA, ainsi qu'il vous a été précisé dans le rapport en votre possession.
Merci. Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Rapport 4.1, Jacques Fromme.
Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, je vous propose d'adopter les tarifs forains pour les différentes fêtes 2019, tels que détaillés dans le rapport en votre possession, tarifs qui n'évolueront pas pour l'année 2019.
Merci. Des questions ? Pas de questions. Avis contraire ? Abstention ? Le rapport est adopté. Nous passons au rapport 4.2. Pierre Marandon.
Merci, Monsieur le maire. Je vous propose d'associer le rapport 4.2 et le rapport 4.3. Le point d'information jeunesse municipalisé en 2007 est soumis à labellisation par le Centre régional d'information jeunesse, renouvelable tous les 3 ans. Le dossier en référence au kit de labellisation Grand Est s'appuie d'une part sur le bilan d'activité de la structure et d'autre part sur son projet de service articulé autour des missions d'information, d'orientation et d'accompagnement des jeunes gens de 14 à 25 ans dans leur parcours scolaire, professionnel, citoyen et de loisirs. Le règlement intérieur, objet de la délibération suivante, complète ce dossier. Je vous propose donc d'autoriser le maire ou son représentant à solliciter la reconduction, de labellisation du Pige d'Épernay et d'adopter le règlement intérieur applicable tant au sein de la structure que lors des animations et actions hors les murs, telles que celles organisées entre autres avec la Commission Jeunes ou à l'occasion des tout nouveaux rendez-vous jeunesse. Pour information, le premier rendez-vous jeunesse est fixé au 8 avril et proposera un débat sur le climat, animé en particulier par Jonathan Rodriguez et par l'équipe du développement durable.
Merci. Des questions sur ce rapport ? Pas de questions. Avis contraire ? Abstention ? Le rapport est adopté. On poursuit toujours avec Pierre Marandon, rapport 4.3.
Non, il vient de
passer. Ah, pardon, c'était fait en même temps.
Oui, 4-4. Allons-y. 4-4. Merci, Monsieur le maire. Le passeport vacances destiné aux jeunes de 11 à 16 ans ouvrira ses portes cette année du mardi 9 juillet au vendredi 23 août. Comme l'an dernier, un accueil matinal sera proposé à la ferme de l'hôpital, qui est le site de référence pendant les 7 semaines du dispositif. Une carte Mouvéo hebdomadaire sera remise à chaque participant qui la demandera. La capacité journalière d'accueil est de 80 pour les 5 premières semaines, puis de 50 pour les 2 dernières. La grille tarifaire proposée, inchangée par rapport à 2018, est adaptée au quotient familial pour les bénéficiaires CAF, tandis que les adhérents MSA se feront rembourser directement par leur caisse. Les inscriptions sur rendez-vous commenceront le 11 juin pour les Sparnassiens et le 17 juin pour les extérieurs, sachant que les extérieurs à Épernay acquittent le coût réel de la prestation.
Merci. Des questions ? Oui.
Revenir sur le règlement intérieur, un point de détail.
Juste avant, oui, le rapport d'avant.
Oui, parce que j'ai été un peu surpris là. Oui, oui, c'est l'article 3 sur les mesures disciplinaires. Donc, non-respect de l'animateur, exclusion du site, exclusion temporaire, définitive.
Ad vitam aeternam.
Comment ?
Non.
Non, mais c'est plaisanté, c'est du temporaire.
Temporaire.
Bien entendu.
Donc, non-respect des locaux, une semaine d'exclusion. Insultes, menaces, agressions, détérioration, vol, de 1 semaine à 6 mois d'exclusion. Une semaine pour s'il y a un vol ou une agression, une menace, c'est peu.
Oui. Alors, c'est modulable. Ça s'inspire de toute façon du kit Grand Est. Voilà, c'est un règlement intérieur type qu'on n'avait pas jusqu'à présent et qu'on doit ajouter effectivement au dossier de labellisation.
Et c'est le même pour tous les piges.
Hein. Ben, oui, donc ça...
ouais. C'est pas là, nous qui l'avons défini.
Là, on n'a rien inventé. Là, on n'a rien inventé. C'est les mêmes pour toutes les structures. Simplement, jusqu'à présent, on ne l'avait pas. Donc, on l'ajoute au dossier de labellisation.
Merci pour cette précision. Sur le rapport donc 4.4, avis contraire, abstention. Le rapport est adopté. Nous passons au rapport 4.5, toujours Pierre, concernant la signature d'une convention partenariale relative à l'organisation des Fit Days. Et ça se... raccroche au rapport des subventions
rapport
tout à l'heure.
J'avais présenté en commission le projet FITDES et j'avais simplement oublié d'ajouter dans la liste des subventions la subvention afférente à cette manifestation.
Alors, dans le cadre de sa politique en faveur du sport santé, la ville d'Épernay accueillera le 24 mai prochain une étape de l'opération Field Days, autrement dit, pour Christian, journée de la forme, organisée en collaboration avec la Mutuelle Générale de l'Éducation nationale, avec l'inspection et avec les services municipaux des sports, de l'éducation et de la jeunesse. Le village à vocation ludique, sportive et citoyenne sera installé dans le parc de loisirs Roger Menu et accueillera sur la journée 14 classes des écoles élémentaires d'Épernay. Les enfants préparés en amont par leurs enseignants participeront à un triathlon bien sûr adapté et à une dizaine d'ateliers éducatifs encadrés par 36 personnes qualifiées de l'équipe FIDES et les éducateurs territoriaux de la ville. Originalité par rapport par ailleurs du concept, les familles et les centres sociaux seront associés en fin d'après-midi à cette animation à l'occasion d'un relais du cœur composé d'équipes de deux, un enfant plus un grand, alors ça peut être un parent, ça peut être un frère, ça peut être un ami. J'ajoute que 20 enfants seront invités à participer à la finale régionale où ils tenteront de gagner leur place pour la finale nationale prévue les 11 et 12 juillet à Narbonne et pris en charge par l'association Tigre. Tigre, c'est-à-dire Triathlon International de Grenoble. Ce sont des gens de là-bas qui nous ont proposé. On a rencontré avec Jean-Benoît à Montpellier, qu'on a suivi à Reims l'an dernier lorsqu'ils ont mis en place cette animation et qui nous ont convaincus d'organiser ça au niveau des scolaires d'Épernay. Je vous invite donc à adopter les termes du contrat de partenariat joint au projet de délibération.
Merci. Des questions ? Pas de questions, pas d'opposition. Le rapport est adopté. Dans la lancée, Pierre Marandon, rapport 4-6. Le chaud Marandon, c'est pas fini en plus.
Bien, la 17e édition du Raid Aventure accueillera les 17 et 18 avril prochains 25 équipes de 3 jeunes âgés de 11 à 17 ans, accompagnées chacune d'un adulte. Le départ sera donné le mercredi matin à la ferme de l'hôpital et la remise des récompenses aura lieu le jeudi après-midi au stade Paul Chandon, après 2 journées consacrées à des activités physiques de pleine nature et une nuit sous la tente au terrain de camping d'Épernay. Différents partenaires s'associent depuis plusieurs années à ce rendez-vous sportif et ludique des vacances de printemps. Vous en avez la liste dans le projet de convention qui définit les modalités d'organisation et la répartition des tâches de chacune des parties communes. Je vous invite donc à autoriser le maire ou son représentant à signer la convention partenariale jointe au projet de délibération.
Merci. Des questions ? Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Rapport 4.7. Pierre Marandon, toujours.
Bien, nous allons parler du Tour de France. Comme vous le savez, la société Amaury Sport Organisation SO a désigné Épernay comme ville-étape du 106e Tour de France, qui fêtera par ailleurs le 100e anniversaire du maillot jaune. Ville-étape, donc, pour la 7e fois de son histoire, parmi quelques 250 candidatures annuelles, après avoir été ville-départ en 1978, 2002, 2010, 2012 et 2014, pour une seule arrivée en 1963 en face du commissariat. Certains s'en souviennent peut-être. Étape remportée par Eddie Powels. Franck était trop jeune.
Bah, je suis né.
Je sais, c'était l'année. Le lundi 8 juillet, Épernay accueillera donc l'arrivée de la 3e étape, longue de 214 km, au départ de Binche en Belgique. Concernant le jour J, comme décrit dans le projet de délibération, le parcours final devrait être spectaculaire et promis à un petit groupe de baroudeurs pour reprendre un vocabulaire propre au cyclisme et cher à Christian Prudhomme. La caravane de 160 véhicules festifs et le peloton entreront dans l'agglomération à Cumières, avant de monter successivement les 3 côtes dévillées de Champillon puis de Mutigny. Retour dans l'agglomération à Chouilly, arrivée à Épernay via le Mont Bernon. Bien sûr, descente la rue des Gencelins, Paul Chandon. Chemin de la Source, voilà, c'était le chemin de la Source que je cherchais. Ensuite, bien sûr, on remonte l'avenue de Champagne, la rue de Lorraine et une arrivée en configuration étape de montagne en haut, tout en haut de la rue des Coteaux. J'avais dit au sommet de la rue des Coteaux, mais bon, c'est peut-être un peu prétentieux de dire au sommet, mais c'est en haut de la rue des Coteaux, quand même 400 mètres à 14% de moyenne. La configuration étape de montagne, ça veut dire que la ligne d'arrivée, le podium, le protocole se trouveront donc en haut de la rue des Coteaux, que la presse écrite, 350 journalistes seront installés au gymnase Godard-Roger, que les zones techniques et de vie seront sur l'esplanade Charles de Gaulle et que la caravane, après avoir fait tout le parcours, se dirigera sur le parking du Millésium. Différentes animations seront organisées avant le jour J. Dès jeudi prochain, la dictée du tour. 370 élèves de CM vont se retrouver au Palais des Fêtes pour faire la dictée du tour, et 8 élèves seront invités à venir sur le podium le jour de l'arrivée. Le lendemain, avec les apéros de la halle, Jacques nous a proposé de profiter du J-100, parce qu'on sera au J-100 ce jour-là. Tout ça pour dire que ce n'est pas moi qui ai eu l'idée de l'apéro de la halle. Donc, la halle qui est en train de pavoiser aux couleurs des maillots. C'est fait ? C'est fini ? Donc, ça y est. Donc, aux couleurs des maillots distinctifs du Tour, sachant que tout le parcours aussi intramuros va être balisé aux couleurs. Et là, tout à l'heure, ils étaient en bas de la ville de Champagne. Je ne sais pas s'ils sont arrivés jusqu'en haut. Et bien sûr, nous aurons pendant les 3 mois tout un programme d'animation en collaboration avec l'Office des sports, avec les clubs cyclistes et le comité départemental, avec les commerçants d'Épernay, avec l'Office de tourisme, bien sûr, avec les différents services de la ville. Le contrat stipule que le ticket d'entrée ISO est de 120 000 euros hors taxe, c'est-à-dire 144 000 euros. Et bien entendu, nous avons sollicité les partenaires institutionnels et fidèles que sont la région, le département et l'agglomération. Quelques chiffres, parce que vous allez me poser la question tant que je les donne avant. Donc le Tour de France, on le sait, c'est le 3e événement mondial en termes d'audience médiatique et de public, après la Coupe du Monde de foot et après les JO, mais eux qui n'ont lieu que tous les 4 ans. En termes de spectateurs, c'est 10 à 12 millions de spectateurs sur le bord des routes, 65% en famille, dont 20% d'étrangers. En termes d'audience, c'est 3,5 millions de téléspectateurs.
3 milliards et demi.
3 millions. Chaque après-midi.
Ah oui, d'accord.
Chaque après-midi, oui, oui.
Parce que le nombre des télévisions concernées, c'est potentiellement 3 milliards.
Oui, mais on est bien d'accord, c'est chaque après-midi, 3,5 millions de téléspectateurs. Ça va jusqu'à 8 millions selon les jours. C'est 6 heures en moyenne de diffusion sur France Télévisions. C'est 100 chaînes de télé, dont 60 en direct, qui diffusent dans 190 pays. Pour une ville arrivée, c'est plus de 20 minutes de visibilité pure sur la ville et plus de 30 citations. Sur les réseaux sociaux, 7 millions de fans, 13 millions de visiteurs sur les sites internet. C'est aussi 4500 suiveurs, dont 2000 journalistes. Et on rajoutera bien sûr que c'est une fête gratuite pour le public, sparnassien, marnais, champenois, pour tous nos touristes français et étrangers, et pour tous les amoureux du Tour qui font jusqu'à 150 km, pour certains, pour suivre le Tour de France. Je vous invite donc à autoriser le maire à signer le contrat qui est derrière, avec ISO.
Merci. Des questions sur ce rapport ? Pas de questions. Avis contraire ? Abstention ? Le rapport est adopté. Merci. Non, mais c'était tellement précis qu'il n'y avait plus de questions à poser.
Monsieur le maire.
Oui.
Je voudrais quand même souligner l'incohérence de certains d'entre nous qui ne votent pas pour un rallye, mais qui votent pour quelque chose qui est quand même extrêmement plus polluant. Oui.
Bon, dans 15 ans, tu ne seras pas convié au pot dans 15 ans. Hein.
Laisse ta voiture au garage et tu prends un vélo. Hein.
Alors, donc le rapport est adopté. Nous passons au rapport suivant. Rapport 4.8, Christian de Mongin.
Merci, monsieur le maire. Chers collègues, nous allons parler d'événements nettement plus modestes et organisé par la Direction des affaires culturelles. Alors, par exemple, le festival Voilà l'été, l'anniversaire de jumelage, les accueils de délégations, les escales africaines. Bref, bien que modeste, il faut loger les gens qui viennent. Et je vous invite donc à approuver les termes des conventions passées avec l'hôtel première classe qui, dans le cadre de ces manifestations, propose la gratuité d'hébergement et l'hôtel Ibis qui propose des tarifs préférentiels, 50 euros pour la chambre simple et 70, enfin 55 chambres simples et 70 pour la chambre double. Voilà.
Merci. On pourra d'ailleurs remercier ces hôtels de faire un effort particulier. Y a-t-il des questions sur ce rapport ? Avis contraire ? Abstention ? Le rapport est adopté. Rapport 4.9.
Dans le cadre du mécénat pour le musée, je vous invite à signer des conventions avec la Fondation du patrimoine et la Société Veralia. En fait, il y a 2 conventions. La Société Veralia a formalisé le principe de mécénat depuis le mois de novembre 2018. Cependant, elle souhaite disposer de 2 conventions distinctes, l'une pour les dons en nature et l'autre pour les dons en numéraire. En effet, le numéraire passe par la Fondation du patrimoine, le don en nature, non. Donc, il y a une convention entre Ville d'Épernay, Veralia et Fondation du patrimoine, et une autre entre Veralia et la Ville d'Épernay.
Voilà.
Je rappelle que Verallia est la grande entreprise qui fabrique des bouteilles de champagne située à Wari, et donc très implantée et très concernée par ce projet de musée du vin de champagne et de l'archéologie régionale.
100 000 euros en numéraire et 50 000 en nature.
Y a-t-il des oppositions ? Des questions déjà ? Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. On poursuit avec le rapport 5.1 et on revient à Christine Mazzi.
Merci. Dans le cadre de la délocalisation future de la fête foraine vers le Millésium, des travaux de renforcement de la structure du parking B1, des travaux de mise en électricité, de travaux d'eau potable et d'évacuation des eaux usées ont été nécessaires. La communauté d'Aglo en a profité pour procéder au renouvellement complet des différentes couches de structure des plateformes B2 et B3. Il s'agit des parkings. Il vous est proposé de verser un fonds de concours d'un montant de 174 605 euros, correspondant à 22% du montant total des travaux, conformément à la répartition qui est définie en annexe 2 du rapport qui vous a été joint.
Merci. Je précise que ce n'est pas uniquement pour l'accueil de la fête foraine, mais c'est aussi pour remédier à l'état du parking qui, après 13 ou 14 ans d'activité s'agissant des plateformes B2 et B3, a été sérieusement endommagé et qu'aujourd'hui, on a pu toutes et tous apprécier ce confort. Je pense notamment aux personnes âgées qui sont venues en voiture lors du repas des aînés le 24 février dernier. Et c'est vrai qu'il y a un confort accru pour tout le monde et j'allais dire ça justifie pleinement l'investissement qui a été fait. Des questions ? Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Nous poursuivons avec le rapport 5.2, Anne-Marie Legras.
Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, je vous propose d'acter la cession au profit de l'association Les Papillons Blancs de Champagne d'une parcelle de terrain de 2019 mètres carrés située avenue Foch. À la demande de l'association, la ville a pris en charge la déconstruction d'anciennes maisons vétustes dont le coût a été intégralement répercuté dans le prix de vente qui s'établit donc à 293 680 euros.
Merci. Des questions sur ce rapport ? Alors, effectivement, vous savez que nous avons détruit deux vieilles bâtisses qui se trouvaient avenue Foch pour libérer du foncier. Ça nous a permis de libérer du foncier pour accueillir deux programmes immobiliers du foyer Rémois. Et dans la continuité, un troisième bâtiment verra le jour, à peu près au niveau de l'arrière du hall des sports Pierre Gaspard, pour accueillir un nouveau bâtiment que construira l'association Les Papillons Blancs de Champagne. Ce bâtiment était, jusqu'ici, Les Papillons Blancs étaient installés à l'autre extrémité de l'avenue Foch, en l'occurrence près du côté ville, mais souffrait d'être dans des locaux extrêmement contraignants en termes d'accessibilité. Et quand on gère un établissement pour personnes handicapées, c'était un véritable problème. Donc la décision a été prise par Les Papillons Blancs d'investir dans un nouveau bâtiment qui présentera également l'avantage pour les garçons, les filles, les jeunes handicapés, d'être en proximité immédiate d'équipements sportifs, le hall des sports Pierre Gaspard, la piscine, et donc de profiter pleinement d'activités récréatives qui sont importantes pour eux. Sans compter que les bus passant devant, donc on avait l'assurance d'avoir une desserte parfaite de cet équipement de manière à leur permettre de ne pas être systématiquement obligés de recourir à la voiture de leurs parents ou à les taxis, mais de venir aussi par le transport public. Donc pour toutes ces raisons, le choix des Papillons Blancs s'est porté sur ce site. Des questions ? Oui, Marc.
Quelle est l'évaluation des domaines ? J'oublie.
Alors, l'évaluation des domaines. Alors, c'est. Attendez. Alors, la cession est faite à 293 680 euros, sachant qu'on a intégré dans la cession les coûts de démolition qui seront. Les Papillons ont souhaité que ce soit la ville qui suive les coûts de la démolition. Pour autant, ils sont intégrés dans le coût et. L'estimation des domaines, 264 500. Après démolition. Pas d'autres questions sur le rapport ? Avis contraire ? Abstention ? Le rapport est adopté. Nous poursuivons avec, je crois que c'est toujours Anne-Marie, oui, accord définitif portant sur le projet de site patrimonial remarquable.
Chers collègues, je vous propose de valider la modification de l'appellation des membres de la commission locale ainsi que le projet final du site patrimonial remarquable, comme détaillé dans le rapport en votre possession. Et donc, nous arrivons en fin de démarche, le SPR, comme vous disiez, monsieur le maire, tout à l'heure, site patrimonial remarquable qui vient remplacer la VAP et précédemment la ZPPAUP qui avait été mise en place dans les années 2003 et donc qui avait été un petit peu toilettée, si j'ose dire. Et puis, donc suite à la loi Grenelle, donc, nous avons dû y intégrer des éléments de développement durable. Et donc, ce qui nous donne un outil réglementaire vraiment qui est très intéressant pour orienter les personnes qui rénovent. Et nous pouvons en voir des exemples dans différents quartiers de la ville qui rénovent de manière qualitative leur patrimoine. Et nous continuons évidemment à attribuer des subventions et auxquels ont le droit les personnes qui sont dont le bâtiment, la maison est répertoriée d'intérêt architectural.
Donc il y a une grande, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une grande continuité là aussi dans la politique municipale. Vous vous souvenez, pour les plus anciens d'entre vous, qu'on avait en 2003 approuvé la ZPPAUP, qui était à l'époque une nouveauté. Je crois d'ailleurs qu'on était la première ville de la Marne à avoir une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager. Puis la loi a évolué vers ce qu'on a appelé les AVAP, les aires de valorisation de l'architecture et du patrimoine. Aujourd'hui, on est passé avec la loi patrimoine sur la notion de site patrimonial remarquable. L'objectif étant pour nous de maintenir une politique de préservation du patrimoine bâti, ce qui ne veut pas dire qu'il est figé, évidemment. On accompagne les évolutions de ce patrimoine bâti à travers nos subventions et nos aides au ravalement de façade. L'objectif étant de faire réapparaître à chaque fois que c'est possible l'architecture locale, ce qui est une part importante de l'identité locale. Et je crois pouvoir dire que les efforts qui ont été entrepris avec les particuliers depuis un certain nombre d'années ont permis de faire évoluer considérablement certains quartiers, le plus spectaculaire étant la rue du docteur Véron, où on avait autrefois une rue qui était en grande souffrance et qui présentait parfois une vision un peu misérabiliste. Aujourd'hui, tous les bâtiments de cette rue ont été refaits, avec l'école, le lycée. La ville avait fait des efforts importants sur l'école Louise de Savoie, et ça donne quand même une autre allure à ce quartier qui a depuis à retrouver une activité beaucoup plus favorable. Y a-t-il des questions sur ce site patrimonial remarquable ? Pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adapté. On poursuit avec Joachim Verdi, rapport 5.4.
Mes chers collègues, je vous propose d'adopter la convention qui nous liera la ville, la communauté d'agglomération et la commune de Chouilly pour organiser une surveillance de la qualité des eaux souterraines demandée par le préfet sur une parcelle cadastrée Z698. Cette parcelle a fait l'objet dans les années 70 d'un stockage de déchets ménagers et assimilés avant son transfert à la communauté d'agglomération lors de la création de la déchetterie. Cette zone-là est donc susceptible de porter atteinte à l'environnement de la nappe phréatique. Donc le préfet nous demande d'installer un réseau de piézomètres pour vérifier s'il n'y a pas de migration vers les champs de captage qui ne sont pas très loin.
Voilà. Alors il s'agit du terrain correspondant à l'ancien centre de transfert.
Oui, hein. Oui, c'est ça.
C'est-à-dire grosso modo situé entre la Fertiline et Nicolas Feuillatte, à peu près à mi-distance. Voilà. Ce terrain qui va faire l'objet de plantations dans le cadre des mesures de compensation est sous surveillance. Hein. Il ne faut pas s'inquiéter au-delà. Je me souviens que on avait, dans le cadre de l'ancienne dépôt-zone de la CJSAE, qui se trouvait juste en dessous, un périmètre de protection également. Ce périmètre est en voie d'être levé une quinzaine d'années après. Donc, en fait, ce sont des mesures de précaution qui sont prises pour rester attentif à la situation d'un terrain qui a hébergé une activité polluante. Ça ne veut pas dire que l'utilisation de ce terrain est définitivement compromise. Ça ne veut pas dire que les eaux sont forcément affectées. Mais encore une fois, c'est
pour ça que la surveillance s'arrêtera dans 4 ans, voilà. Si on considère qu'il n'y a,
pas de migration. S'il n'y a pas d'anomalie, d'ici 4 ans, les mesures de surveillance s'arrêteront.
Et donc, lié à cette histoire, c'est donc la ville qui prend en charge financièrement cette surveillance.
Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. On poursuit, Joachim, rapport 5.5.
Alors, mes chers collègues, il s'agit d'une charte en matière de travaux à proximité des ouvrages de gaz. C'est une charte que toutes les collectivités vont signer avec GRDF. Nous ne sommes pas les seuls. C'est une campagne nationale de GRDF afin de réduire sensiblement les dommages aux ouvrages de distribution de gaz naturel sur le territoire des collectivités. Je vous propose d'adopter la charte à intervenir entre GRDF, la ville d'Épernay et la communauté d'Aglo afin de mettre en œuvre un ensemble d'engagements réciproques dans un esprit de transparence, d'échange de bonnes pratiques et de responsabilités tels que précisés dans la charte qui a été annexé à votre rapport. Voilà, c'est un guide des bonnes pratiques en matière de travaux publics pour éviter les accidents, comme on a pu en avoir historiquement sur la ville même, puisque dans toutes les villes anciennes, souvent, des réseaux ne sont pas exactement aux endroits où on les attend.
Oui, on a même parfois des canalisations que Gaz de France est surpris de découvrir autant que nous. Mais qui sont souvent d'anciennes conduites dévoyées qui pour autant comportent un peu de gaz encore résiduel, de manière résiduelle. Pas d'opposition sur ce rapport, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Nous poursuivons avec le rapport 5.6, toujours Joachim.
Alors, la collectivité s'est engagée dans la réalisation d'une passerelle passe-quartier, programme clé du pôle d'échange multimodal de la gare. Elle aura à la fois pour fonction une fonction urbaine de relier le centre historique et le futur quartier Berge de Marne, et également le rôle de mise en accessibilité des quais SNCF par des ascenseurs accessibles aux personnes à mobilité réduite, bien sûr. Cette réalisation relève ainsi de 2 maîtrises d'ouvrage, la ville et la SNCF. Les 2 parties ont décidé de conventionner pour que la ville d'Épernay soit maître d'ouvrage unique de l'opération. La présente délibération a pour objet d'adopter la convention de maîtrise d'ouvrage unique, jointe au rapport en votre possession.
Alors, un mot, oui, sur ce... Bon, on a évoqué cette passerelle déjà à plusieurs reprises. On l'a évoqué également dans le cadre des ateliers participatifs qui se sont déroulés à l'automne dernier. À ce stade, il s'agit de définir le cahier des charges pour imaginer cette passerelle. Cette passerelle qui sera une passerelle à la fois piétonne et cyclable, l'objectif étant d'assurer la liaison la plus fluide possible entre le futur quartier Berge de Marne et la ville actuelle, enfin le centre-ville actuel. Ça amènera évidemment la communauté d'agglomération, la ville, la SNCF, la région à travailler ensemble, à se pencher également sur les contours et la physionomie du futur pôle d'échange multimodal, puisque au pied de cette passerelle, on trouvera, évidemment, quand on sera passé sur la passerelle, on aura eu un accès, une accessibilité vis-à-vis des quais de la gare pour les usagers du train et l'accessibilité des quais sera assurée donc par la voie de cette passerelle. On aura également, on y trouvera les bus urbains, les bus interurbains, des services évidemment pour stocker, garer des vélos, voire des services d'autopartage ou de vélopartage. On peut imaginer toute une série de services qui vont se greffer sur ce pôle qui sera le cœur de la mobilité du bassin de vie d'Épernay, puisque c'est de là qu'on aura la plus grande offre de transport dans notre territoire. C'est évidemment également une passerelle qu'on souhaite adopter des formes architecturales valorisantes, parce que ce sera une des portes d'entrée du quartier Berge de Marne. Et donc un soin particulier sera apporté au geste architectural pour que cette passerelle ne soit pas qu'une passerelle fonctionnelle, mais qu'elle soit également un lieu de promenade où on a plaisir à venir voir passer les trains avec ses petits-enfants, où on a plaisir à passer d'un quartier à l'autre, qui pourrait être une passerelle partiellement d'ailleurs végétalisée. Mais ça, c'est le travail des architectes qui vont travailler sur ce projet. Je voudrais en profiter pour saluer le travail qui a été entrepris en la matière à la fois par nos services, de saluer également le travail qui se fait avec la région qui soutient fortement les pôles d'échange multimodaux et qui nous accompagnera sur ce projet ambitieux. Et puis, évidemment, souhaiter que la collaboration avec la SNCF, avec la communauté d'agglos soit la plus fructueuse possible, puisque c'est une partie de l'avenir des Pernets qui se joue à travers l'aménagement du futur quartier Berge de Marne. Et cette passerelle, encore une fois, assurera elle seule la liaison entre la ville historique dans laquelle nous sommes et la ville future qui sera symbolisée par ce quartier Berge de Marne. Donc c'est un sujet sur lequel nous reviendrons à de multiples reprises. Évidemment, on peut imaginer qu'après ce travail d'élaboration et cette convention de maîtrise d'ouvrage, un concours d'architectes aura lieu, sachant que la passerelle verra le jour en 2023-2024, dans cet horizon-là, tout simplement parce que quand on travaille sur un projet qui enjambe des voies SNCF, il y a une période d'attente de 3 ans pour permettre à la SNCF d'anticiper toutes les évolutions que cette passerelle pourrait avoir sur le trafic, le temps des travaux, pour sécuriser le site. Et quels que soient les travaux que l'on réalise sur un axe enjambant la SNCF, il y a ce temps d'attente qui peut paraître extrêmement long, mais qui est nécessaire pour mettre au point et évaluer toutes les conséquences que cette passerelle pourra avoir sur le trafic de la gare. Y a-t-il des questions, Marc ?
Quelques interrogations. Bon, la première, pourquoi la SNCF exige-t-elle que les études lui soient communiquées de manière dématérialisée d'une part, et d'autre part, de manière en papier ? Donc, c'est...
Ça, donc, j'avoue que je ne sais pas. Donc,
ouais. Je pense que c'est un détail technique très simple, c'est qu'ils veulent avoir aussi des documents qui ne sont pas toujours dématérialisables de
oui,
façon
des plans,
aisée.
On peut penser
des
à
plans qui font des kilomètres sur des tables, réduit sur des écrans A3, je peux vous dire que...
Je pense que les plans en version papier, quand ils sont importants, c'est indispensable.
C'est
et puis, par contre, les explications peuvent être par voie dématérialisée.
Une question générale, en fin de compte, quand aura lieu l'acquisition et à quel prix ?
Alors, l'acquisition, je suis incapable de vous répondre, parce que la balle est dans le camp de la SNCF. Je rappelle quand même que la SNCF nous avait proposé d'acquérir le terrain il y a à peu près 3 ans. Et qu'elle a revu sa position puisqu'elle avait des travaux de dépollution importants engagés qui devaient initialement durer 1 an et qui, en fait, ont duré plus de 2 ans. Donc, en fait, la balle est dans le camp de la SNCF. Il se peut que d'ici une semaine ou 15 jours, la SNCF nous propose d'acheter le terrain, comme ça peut arriver dans 6 mois.
Et donc, le prix initial, il n'y a jamais eu...
À l'époque, le prix qui nous avait été proposé était de mémoire d'1,2 million. Maintenant, le site a un peu évolué puisque la SNCF conserverait à peu près entre 8 000 mètres et 10 000 mètres pour des besoins futurs non encore explicités. Donc je pense qu'une démarche est engagée auprès des domaines. Et dès qu'on aura le retour des domaines, alors est-ce que la SNCF voudra être pressée ou pas mais bon, la balle est clairement dans le camp de la SNCF. Nous, on est prêt à acheter. Mais pour l'instant, on est qu'acheteur, on n'est pas le vendeur. Donc le rythme avec lequel cette transaction se fera dépend entièrement de la SNCF.
Et puis la troisième, c'est plutôt une affirmation. Là, on va avoir la passerelle, on va adapter l'ensemble multimodal au départ. Mais en ce qui concerne l'arrivée, on n'a pas d'axe de circulation futur à l'intérieur donc du nouveau quartier. Ça posera peut-être un problème pour...
De quel côté ? Côté Berge de Marne ou côté... ou côté cours de la gare ?
De l'autre côté. Côté de la gare, on aura... Il n'y a pas de problème. Ça va être étudié en même temps, la plateforme multimodale. Mais de l'autre côté, on n'aura pas l'axe de circulation parce qu'on n'en a pas du tout parlé encore. On ne sait pas quand ça... On sait que ça débouchera au niveau du pont SNCF. Rue de Reims, mais on ne sait pas comment ça va traverser toute cette zone, l'axe de circulation.
L'axe perpendiculaire.
Oui.
Je pensais que tu parlais de l'axe
de
la passerelle.
Il y aura pas, on ne connaît pas actuellement le tracé.
Non, pas précisément. On le devine.
On ajustera ou on sera. On devra arriver sur une place, sur un.
Non, non. Ce qu'on peut dire, c'est que avec quasi certitude, c'est que la passerelle. Elle-même, donc qui démarrera à gauche de la gare vue d'ici, arrivera dans un axe qui sera lui un axe piéton côté quartier SNCF jusqu'à la Grande Halle. Et là coupera l'axe est-ouest qui sera l'axe routier. À ce stade, c'est difficile d'en dire plus parce qu'aujourd'hui, tout n'est pas définitivement figé et tout n'est pas phasé. Parce que. L'aménagement du quartier de la gare va prendre probablement 10 à 15 ans. Alors, évidemment, il faudra bien commencer l'aménagement de ce quartier par un endroit et se déployer ensuite dans d'autres endroits, d'où l'intérêt d'avoir un plan guide qui a été élaboré avec notre maîtrise d'œuvre, avec les travaux de réflexion auxquels vous avez d'ailleurs participé. Mais vous dire aujourd'hui quel sera le premier bâtiment construit, puis le deuxième, puis le troisième, et dans quel ordre ça va se faire, ça, c'est tout l'objet des études qui sont en cours. Donc, on a une vision assez précise de ce qu'on souhaite voir dans ce futur quartier, mais comment, de manière opérationnelle, tout ça va se mettre en œuvre, c'est impossible de vous le dire aujourd'hui. Maintenant, il faudra que, dans les années qui viennent, on ait une idée un peu plus précise pour que, le jour où la passerelle soit terminée, elle débouche bien sur quelque chose. Donc, on a, grosso modo, encore 2-3 ans pour peaufiner le projet, pour phaser toutes ces réalisations. Mais ce qui est certain, c'est que la passerelle sera un axe majeur d'accès à ce quartier venant du centre-ville et pour les gens qui ne sont pas en voiture ou en camion, enfin pour les gens qui sont sur des modes de circulation doux. Pour le reste, effectivement, l'axe principal d'accès des véhicules se fera plutôt par le quai de Marne et rejoindra très vraisemblablement l'avenue du Maréchal Joffre, sachant qu'un certain nombre de contacts sont pris aujourd'hui avec des entreprises comme Le Grain Industrie, avec la SNCF évidemment, et que tout ça nécessite de positionner avec un degré de précision qu'on n'a pas aujourd'hui la future voie traversante. Monsieur Angers.
Oui, donc vous avez évoqué des travaux qui pourraient être entrepris à échelle 2024. Moi, je voulais faire le point également sur un autre chantier peut-être en perspective, j'en sais rien, c'est celui de la réfection du pont SNCF sur les voies. Est-ce que s'il y a donc une diminution du trafic, en général, la SNCF peut entreprendre une multiplicité de travaux dans un même délai, est-ce que la réfection, si réfection il y a du pont SNCF, peut attendre un délai aussi lointain? Est-ce que c'est une perspective qui a été étudiée par la SNCF pour imaginer un phasage qui soit identique? Si je pose cette question-là, c'est parce que les usagers de la ligne ferroviaire Vallée de la Marne sont quand même significativement pénalisés par une dégradation de la qualité du trafic depuis un certain nombre d'années maintenant. Et effectivement, il prendrait peut-être assez mal d'être pénalisé encore à de multiples reprises dans l'avenir. Est-ce que vous avez des éléments d'information sur cet aspect?
Alors, Joachim en a, puisqu'il a participé à une réunion ce matin avec la SNCF et le département. Je vais lui laisser la parole, mais simplement indiquer qu'aujourd'hui, on ne sait pas si ce pont sera réhabilité ou démoli et reconstruit. C'est un choix qui ne nous accompagne pas. Cet ouvrage est un ouvrage dont la responsabilité est partagée entre le département et la SNCF. Et la réunion de ce matin ne nous a pas permis... Enfin, je te laisse la parole.
La réunion de ce matin n'a pas permis de clarifier les choses, puisque l'entretien incombe à la SNCF, mais la propriété du pont est au département. Il faudra savoir si on considère qu'une rénovation lourde et simplement une réhabilitation est une notion d'entretien, ou est-ce qu'elle est, ou passe-t-on par une démolition-reconstruction, où là c'est un investissement et c'est dans ces cas-là le département qui prendrait un peu plus la main. Donc ils sont en cours de négociation ensemble, parce qu'il y a quand même des conventions qui les lient depuis 60 ans sur le sujet, mais les choses bougent. Infrapôle SNCF n'a pas forcément les moyens d'aussi gros investissements. Alors sachez qu'en termes d'échéance dans les prochaines années, la passerelle passe-quartier serait le point d'orgue en termes de planification de beaucoup de changements qui devraient nettement améliorer et permettre à la gare d'Épernay de rester une gare importante et qui se projette dans le futur. L'idée d'un pôle d'échange multimodal est très très important. La passerelle passe-quartier est une cerise sur le gâteau. Mais en 2020, toute la section Épernay-Reims va faire l'objet de gros travaux de voirie avec le renouvellement complet de ces systèmes de signalisation pour installer ce qu'il y a de plus moderne. Donc, ce qui permettra certainement à la région d'avoir des cadencements TER de meilleure qualité. C'est toujours dans ce projet-là. Hein. Je pense que c'est le projet régional Rhin-Chalon et permet. En 2021, donc c'est la mise en accessibilité, la rehausse des quais SNCF 2022, la rehausse des quais SNCF pour là aussi les adapter au matériel nouveau. Et donc après 2023, nous espérions la rénovation complète du pont de la rue de Reims. Là aussi, on est sur des choses très très techniques. Et en fait, il n'est pas possible de tout faire en même temps. On pourrait croire que grouper les chantiers, j'allais dire mettre le bazar en un seul bloc.
Une fois plutôt que trois fois.
Ouais, en une seule fois plutôt qu'en trois fois, ça les arrangerait. En fait, c'est pas du tout comme ça que la SNCF fonctionne. Au risque, sinon, de couper purement et simplement la voie, cette grande voie de l'Est, et faire de la gare d'Épernay un terminus temporaire. Avec, après, pour les gens qui partent vers Chalon, des réseaux de bus, etc. Ce n'est pas du tout l'objet. C'est de maintenir quand même un flux minimum pour les TER et toute l'activité de la région Est. Voilà. Il n'est pas possible de regrouper tous ces travaux. Alors, ça, on pourrait croire, hein, comme ça, que oui, on groupe, on fait des économies d'échelle sur la protection, etc. Ça n'est pas possible. Et le calendrier SNCF est très particulier. Quand on dit on se projette à 3 ans, 4 ans, c'est le minimum. C'est le minimum pour eux si nous avançons très rapidement sur des décisions en matière de répartition et de clés de répartition financière, surtout entre les différents acteurs.
Alors la ville est elle, directement concernée par l'impact, parce qu'évidemment, aujourd'hui, ça perturbe les trafics entre... la rive droite et la rive gauche de la ville. Nous avons d'ores et déjà indiqué au département comme à la SNCF que dans l'hypothèse où des travaux seraient à entreprendre sur le pont, on y prendrait notre part à travers, comme on l'a fait sur le pont de la Marne, hein, c'est-à-dire tout ce qui concerne les trottoirs, l'éclairage public, le garde-corps, on a vu comment les choses...
Le garde-corps ne nous appartient pas.
Non, mais tout ce qui peut être travaux d'embellissement pour faire en sorte qu'il y ait une intégration...
Oui.
Pardon ? Piste cyclable, oui, pardon. Piste cyclable également font partie de nos priorités. Et donc, on s'intégrera dans un dispositif ou de restauration du pont ou de démolition, reconstruction du pont. Et on apportera notre quote-part dans le but de faire de ce pont un ouvrage important dans la... liaison entre les deux parties de la ville et puis la liaison vers Haï, vers Magenta qui sont également extrêmement importantes. Voilà ce qu'on peut en dire à ce jour. On vous tiendra informé évidemment des informations qui résulteront des études qui sont engagées par le département et par
Auger,
la
SNCF. Et je voudrais simplement vous dire qu'on se bat et on s'est battu ce matin avec Frédéric Jardin pour réduire au maximum les nuisances pour les usagers du pont. On va revoir ce plan de circulation qui a été fait un peu dans l'urgence parce que la SNCF, soyons clairs, nous a fait un petit peu peur sur l'état de l'ouvrage au début. En termes de police de circulation, monsieur le maire a obligation d'installer des restrictions sur le passage des poids lourds. On va essayer de les tempérer un petit peu dans la mesure du possible en revoyant tout le barquage au sol et essayer de rétablir une quatrième voie de circulation, donc deux pour les poids lourds aux extrémités extérieures et deux au centre pour les véhicules légers pour alléger la pression sur le pont en attente de réfection ou de reconstruction.
Merci. Pas d'autres questions sur le pont ? Avis contraire, abstention. Donc là, on vote pas pour le pont, évidemment. Hein. On vote pour la convention de maîtrise d'ouvrage unique concernant la passerelle. Nous en arrivons au rapport 5.7. Jonathan Rodriguez.
Oui, merci, monsieur le maire. Chers collègues, je vous propose d'adopter cette convention qui propose de partager avec des collectivités qui nous ont fait la demande notre chemin des abeilles, site internet. Donc on a la possibilité de donner gratuitement, hein, on ne va pas faire payer les collectivités, mais on va donner la rédaction du site, les quelques logos, les noms, etc., qui puissent les utiliser, puisqu'on a reçu un prix national il y a un an de ça, et des collectivités sont venues vers nous pour nous demander comment ils pourraient faire dans leur ville, etc., pour aussi avoir cette possibilité de vanter les plantes mellifères, etc. Donc on va... le proposer, et puis de manière gratuite, évidemment.
Merci. Pas de questions, pas d'opposition. Oui, Marc.
C'est une intervention. Donc la France est la troisième consommatrice mondiale de pesticides et la première en Europe. Les abeilles sont indispensables à notre survie, on le sait, mais ce sont les premières victimes des pesticides. Il y a une grande hécatombe depuis 20 ans actuellement. Nous produisons seulement un tiers de miel par rapport il y a à 1995, par exemple. Certes, les pesticides sont interdits à la vente aux particuliers depuis le 1er janvier 2019, mais toujours en vente en agriculture. J'apprécie votre détermination, Monsieur Rodriguez, pour protéger les abeilles, mais je dois vous rappeler que les sénateurs marnais pour lesquels vous travaillez ont fait blocage en 2016 contre l'interdiction de certains pesticides. Il y a même un sénateur marnais qui a été trouvé en compagnie en restaurant avec un lobbyiste de Monsanto ou Bayer.
C'est pas nous.
Actuellement, avec le départ de Nicolas Hulot du gouvernement, il n'y a plus de défenseurs des abeilles, ou très peu. Une question concernant votre projet, est-ce que vous avez contacté les apiculteurs? Est-ce qu'ils interviennent dans les actions? La ville veut diffuser les bonnes pratiques, c'est très bien. Elle devrait sensibiliser les exploitants de vignes aux abords des écoles qui déversent leurs produits, en dehors des horaires des enfants, des écoles. Alors, en conclusion de cette brève intervention, protégeons les abeilles, mais protégeons aussi nos enfants de belles nous.
Alors, je vais répondre sur les plusieurs points. Je vais commencer par celui-ci. On a regardé donc l'arrêté préfectoral que vous nous aviez signalé. Alors, d'après les mesures qu'on a pu prendre sur l'arrêté de 20 mètres à partir de l'exposition, la cour de récréation auquel pourraient être exposés les enfants, il y a plus de 20 mètres de la première vigne. Cela dit, alors, oui, mais c'est exposé régulièrement, donc ils ne sont pas au grillage, les gamins. Ils ne sont pas au grillage, les gamins, ils sont dans la cour. Cela dit, on a fait un courrier à la propriétaire des vignes. Alors c'est sûrement pas elle qui exploite, c'était une dame, c'est sûrement pas elle qui exploite, pour lui rappeler ses obligations en la matière, puisqu'elle doit veiller à ce que ses vignes soient en tout cas de manière utilisée correctement, en tout cas veiller à ce que celui qui lui loue les vignes fasse ça conformément à la réglementation. Donc on a envoyé un courrier aussitôt que vous nous aviez signalé cette inquiétude en tout cas. Bon, moi j'avais pas eu de remontée des enseignants sur cette question-là. Bon, cela dit, on a fait un rappel à la loi qui existe. Je rappelle que le comité Champagne s'engage d'ici 2025 à supprimer 100% de ses herbicides, donc d'ici 6 ans. Donc, c'est un engagement du comité Champagne qui est assez volontaire en la matière. Pour ce qui est de l'agriculture, il est vrai que la France est une des premières en Europe à consommer ou en tout cas à acheter des produits phytosanitaires. Cela dit, si on compare à la Belgique ou à des petits pays, forcément il y en a plus. Mais si on reprend l'hectare cultivé, c'est là qui est intéressant, puisque s'il y a plus d'hectares cultivés, on a plus de consommation. À l'hectare cultivé, la France se retrouve seulement au 9e niveau européen. Donc, ce qui veut dire qu'elle fait quand même des efforts, puisque on est un des plus grands pays agricoles, mais avec la meilleure agriculture du monde, et ça, je le défendrai. Et ça, il faut le rappeler. Après, pour ce qui est du glyphosate, l'Europe va l'interdire d'ici 5 ans. Je pense que la France répondra aux directives européennes. Donc maintenant, est-ce qu'il y a des alternatives à ce produit? J'en sais rien, sûrement. Il existe des pratiques culturelles différentes. Mais après, le labour fait dégager le CO2 dans l'atmosphère. Donc vous voyez, quand on résout un problème, il faut en résoudre un autre. Donc voilà. Après, moi, je ne suis pas aux ordres des lobbies. Après, on défend l'agriculture française parce qu'elle mérite d'être défendue. Certains la critiquent. Moi, je pense qu'il faut acheter français. Il faut consommer des produits français parce qu'on a des meilleurs produits au monde. On a signé l'accord CETA, là pour lequel vous avez parlé si les sénateurs marnais sont opposés ou pas, parce qu'on leur a pas demandé leur avis aux parlementaires en général. Mais sur le CETA, ils ne sont pas forcément partants là-dessus, ils sont plutôt opposés. Et là, on importe des produits où il y a 42 molécules qui sont interdites en France, qui sont apportées par des pays partenaires, pays tiers. Donc, continuons à acheter français, défendons l'agriculture française, et la critiquer comme vous le faites. Mais je pense que c'est là-dessus qu'il faut aller. Après, pour les abeilles, on les protège, on fait ce qu'il faut à Épernay, elles vivent bien. Vous demanderez à l'apiculteur qui travaille avec nous régulièrement, il gère les ruches. Et pour ce qui est du site, En amont de cette de la création de ce site, on a évidemment concerté, invité la Fédération marnaise des apiculteurs à participer à ça. Regarder où étaient les si ça leur convenait comme projet. Ils ont trouvé ce projet très intéressant. Ils nous ont encouragés, soutenus, et ils ont participé à la rédaction de ce site des abeilles, puisque les plantes qu'on a proposées à Épernay sont des plantes qui s'adaptent au climat local. Voilà. Donc
oui,
la fédération.
Il y a les apiculteurs, j'en connais un. Je pense que si on lui demandait d'intervenir auprès de groupes, auprès d'écoliers, il serait d'accord pour intervenir.
Eh bien, super.
Un proche d'Épernay dans la
banlieue. Eh bien, formidable. On est ouvert à tout.
Vous le connaissez, contact... non ?
Ben, ça dépend, c'est qui ?
Cordari.
Oui, je connais le nom, oui. Ben, moi, il n'y a pas de souci pour que des apiculteurs proposent. On a le nôtre. Celui qui intervient sur nos ruches de la Maison des Arts Associatives, qui est de Germaine, qui vient et qui le fait. Si d'autres sont volontaires, ben, je suis évidemment ouvert à ça. Il n'y a pas de souci pour former. Si on commence dès l'école, il n'y a pas de souci. Et on proposera donc aussi des animations et des choses lors de la semaine du développement durable, notamment, et aussi le marché aux fleurs. Il faut dire que le marché aux fleurs et les horticulteurs, les personnes qui sont sur le marché vont être des partenaires du chemin des abeilles, puisqu'ils vont identifier toutes les plantes mellifères qui seront vendues sur leur stand. Donc c'est là aussi qu'on doit fleurir son jardin, mettre quelques plantes pour le décorer, mais si en plus elles sont mellifères, c'est encore mieux.
Oui, je pense qu'on peut dire qu'on a une initiative là qui est une initiative originale et pragmatique, et qui a vocation à se diffuser un peu partout, parce que finalement, c'est assez simple dans la démarche. Et l'ambition à travers ce rapport, ça a été de faire en sorte de transmettre en quelque sorte la recette du succès à d'autres communes. Plus elles seront nombreuses, mieux ce sera, parce que ça voudra dire que ces communes s'investissent dans une démarche écologique qui vise à préserver les abeilles. Et vous savez tous l'importance qu'ont les abeilles dans notre écosystème. Que sans ces abeilles, il y aurait de véritables périls sur l'activité humaine à l'échelle planétaire.
Juste une chose, oui. Abida me souffle que l'apiculteur dont tu me parles intervient à la Maison pour tous et sur les écoles du quartier Bernon.
Et on a déjà visité avec des groupes, des centres sociaux, enfin, son exploitation.
Merci. Pas d'opposition pour ce rapport ? Pas d'abstention ? Le rapport est adopté. On passe au rapport 5.8. Jonathan.
Merci. Donc là, c'est une modification du règlement du budget participatif. On a voulu prendre en compte les remarques qui avaient été apportées par certains d'entre vous, des bancs de la majorité ou de l'opposition d'ailleurs, sur le premier point, le vote, puisque on a vu qu'en allant dans les médiathèques, on a eu plus de votants de manière physique que dans les mairies, puisque les médiathèques sont ouvertes le samedi, que les mairies, le tel de ville, n'y étaient pas. Donc là, on a rajouté un point de vote supplémentaire. Donc il faudra des élus aussi supplémentaires pour tenir ces bureaux de vote, mais on profitera de l'ouverture du marché pour se positionner sur le marché pour voter de 8h à 13h sur le marché. Et le deuxième point qui est aussi apporté, c'est que pour éviter qu'on ait des projets qui se ressemblent d'année en année sur le budget participatif, qu'on ait la possibilité, avec la commission qui se réunit, d'apporter un avis en disant c'est des projets redondants, on ne va pas avoir tous les ans des panneaux patrimoniaux et des équipements sportifs, parce qu'un jour on ne saura plus où les mettre. Qui en est d'ici 5 ans, pourquoi pas. Qu'il y en ait dans un quartier où il n'y en ait pas eu, on peut étudier la question, mais qu'on nous propose d'en mettre des panneaux patrimoniaux le long du Cubri ou ailleurs. Il faut avoir une diversité et changer un peu pour que ça soit un peu plus original et qu'on ait des nouveautés, qu'on ait autre chose qui concerne un peu tout le monde. Voilà. Donc c'est les deux modifications qui vous sont proposées dans ce budget participatif. Pour faire un point sur le précédent, on a 9 projets qui ont été choisis. Et puis les services techniques ou les services concernés, si c'est les sports, la culture, etc., ont déjà commencé à rencontrer largement les porteurs de projets pour qu'on arrive facilement d'ici quelques mois à avoir les premiers projets qui émergent dans Épernay.
Merci. Des questions ? Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Il nous reste le dernier rapport. Compte rendu de décision prise par le maire par délégation du conseil municipal, article 2122. Avez-vous, chers collègues, des explications à demander sur les décisions énumérées dans le rapport qui vous a été adressé ? Pas de questions, pas de remarques ? Eh bien, nous en avons terminé avec le conseil de ce soir. Le prochain conseil est le 27 mai. Je souhaite une bonne soirée à chacun d'entre vous. Merci.